Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la sixième partie de mon adaptation du roman de Jérôme Aumont, Un empêchement, paru en août 2023 chez Christian Bourgois, éditeur. Roman choral, et nous sommes toujours dans la partie de Xavier. Un homme marié ? Un type qui n'a soi-disant jamais couché avec un autre mec ? Une honteuse réfugiée au fin fond de son placard depuis un demi-siècle ? Qui a soudain vu de la lumière, a trouvé la fête sympa et s'est dit qu'elle allait rester pour voir jusqu'où ça allait la mener. Mais c'est quoi le programme exactement ? Il vient te voir dans ta jolie garçonnière ou baiser comme des lapins et puis hop, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ? Et après ? Mais comment peut-on imposer ça à quelqu'un que l'on prétend aimer ? Laure était furieuse. Impossible de la faire redescendre. Elle était incapable de relativiser ou d'envisager la situation autrement qu'à travers le prisme de ses propres critères et de son programme de vie. « Écoute, je ne dis pas que l'on va rester comme ça indéfiniment, mais pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Il ne refuse pas d'envisager autre chose et il en est incapable, c'est différent. Tu imagines qu'il lui a fallu attendre 48 ans pour l'admettre, pour le vivre enfin ? Je sais très bien de quoi ça a l'air, vu de l'extérieur, ne t'inquiète pas. Mais quoi ? Je ne peux pas te demander à toi, ma meilleure amie, d'accepter l'idée que c'est là où j'en suis, que c'est là où nous en sommes. Tu m'as souvent vu heureux et épanoui ces 25 dernières années. Bien sûr que je préférais te dire qu'il est en train de faire ses cartons, de boucler ses valises, qu'on a acheté un joli trois pièces à Palais-Royal, des pantoufles assorties et une machine à café qui fait des latte macchiato. Je ne dis pas que je n'ai envie de rien de tout cela, mais ce n'est pas à ma portée pour l'instant. J'aime un homme pour qui c'est déjà énorme de se savoir aimer par un autre homme. Je ne vais pas te dire que c'est comme si j'étais tombée amoureux d'un prisonnier condamné à la prison à perpétuité, mais tu comprends l'image. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir épousé sa femme, d'être devenu père et d'avoir renoncé au reste, ce serait absurde. On n'aime pas les gens pour mieux les contraindre. Pas moi, en tout cas. La première chose qui m'a plu chez lui, c'est précisément qu'il ne ressemblait en rien au mec que tu croises le vendredi soir rue des Archives. Je suis mille fois plus attirée et rassurée par un homme comme Mathieu que par un mec qui s'assume, me promet l'amour au grand jour, mais pour qui Paris se limite au 4e arrondissement, façon forêt domaniale, observant le gibier à la jumelle infrarouge. Mon Xavier, tu sais à quel point je t'aime et ne veux que ton bonheur, je suis ton amie, et logique que je m'inquiète. Ça fait des mois que tu couches avec ce mec et tu ne m'en parles que maintenant. Tu te doutais donc bien de ma réaction, non ? Elle est compréhensible, ma réaction, au fond, et tu le sais. Non, je ne lui reprochais rien, alors. Si elle m'avait annoncé qu'elle couchait avec un homme marié depuis 6 mois, j'aurais été le premier à la sermonner. Exactement comme elle était en train de le faire. Il est plus facile de vouloir du bien aux autres que de les entendre vous faire la leçon. C'est vrai que certains week-ends furent d'horribles tunnels que j'empruntais à regret, sans trop savoir si j'allais trouver une porte de sortie, ni où elle allait me mener. Les premières semaines, tout à l'enthousiasme de nos soirées parfaites, je n'ai d'abord pas voulu prêter attention à ces longs samedis après-midi et ces interminables dimanches matins qui s'étiraient sans fin dans l'attente d'un texto ou d'un appel. On est toujours le plus convaincant des baratineurs lorsqu'il s'agit de se mentir à soi-même. On sait quelle histoire on est prêt à gober, quel conte de fées on est capable de relire jusqu'à l'écœurement, sans s'inquiéter du moment où les petits cailloux deviennent petits morceaux de pain. Plus le subterfuge est énorme et plus on l'achète avec connivence. On croit décrypter des signes, alors que l'on ne fait qu'épiloguer avec complaisance. Dors bien, mon petit, sera toujours temps d'échapper aux limbes une fois ton rêve évanoui. Oui, je t'ai beaucoup attendu. Oui, je t'ai trouvé beaucoup d'excuses. Et quand au bord de l'asphyxie je n'en pouvais plus de t'attendre, oui, je t'ai espionné. Plus que le manque, plus que ton absence, c'était l'idée même de m'habituer à cette solitude qui m'angoissait. J'avais envie de me réveiller à tes côtés et de me rendormir dans tes bras. J'avais envie de tout faire avec toi, me précipiter au dernier moment dans une salle de cinéma, un train ou un avion, attraper un taxi pour aller passer l'après-midi aux puces, au jardin d'acclimatation ou sur les bords du canal Saint-Martin, ces choses auxquelles on rêve lorsqu'elles sont hors de portée, mais que l'on décline poliment lorsqu'elles sont offertes. Parce que l'on aspire toujours à autre chose, au vertige lorsqu'on est bien au chaud et au cocon lorsqu'on gratte derrière la porte comme un pitoyable chien errant. Tu traversais l'existence sans facilité particulière, mais avec une force qui en imposait. Et comme tout être brillant et en apparence accompli, tu n'étais que faille béante, doutes abyssaux et angoisses nocturnes, un cocktail auquel je ne pouvais que succomber, non par quelque improbable vocation avortée d'infirmière, mais parce que je n'ai jamais rien tant honni que l'infatuation, l'autocélébration et toute forme d'arrogance. Aurais-je dû, dès le départ, comme l'or m'y invitait sourdement, essayer de nous mettre sous cloche? Aurais-je dû imposer des règles, définir un périmètre de sécurité, exiger des contreparties? Une telle entreprise m'aurait semblé vide de sens. Te savoir aujourd'hui aux côtés de ta femme me rassure. Je détesterais te savoir seule, dans un appartement qui aurait été le nôtre et serait par conséquent devenu le tien, sans préavis, sans dénonciation de bail. Alors non, je ne me reproche aucune faiblesse. Je ne me reproche pas d'avoir refusé tout recours à un quelconque ultimatum, je ne nous reproche rien. Nous avons, je crois, aimé chacun des instants que nous avons passés ensemble. Nous en avons beaucoup volé. J'y ai pris un plaisir similaire à celui que j'éprouvais quand, gamin, je dérobais un sachet de bonbons dans le rayon d'un supermarché. Je le vidais alors aussitôt, chaque sucrerie appelait la suivante. Je savais que c'était à consommer sur place, parfois même sur le parking du supermarché, à l'abri des regards, derrière une allée de caddies, une voiture ou un conteneur de bouteilles vides. Impossible de le ramener à la maison, l'air de rien. Alors j'engloutissais l'épreuve, l'une après l'autre, toute honte bue à m'en rendre malade. De même, j'ai dévoré chaque moment qu'il nous a été donné de partager, avec frénésie, fermant les yeux de toutes mes forces, pour qu'il ne se pose surtout pas sur l'instant suivant. Celui où tu ne serais plus là, je m'emplissais de toi, de crainte de manquer plus tard. On ne fixe pas ces conditions, on a bien trop peur pour ça. On saisit la chance qui se présente. Je descends de l'avion, Marie a un dîner professionnel, je peux venir te retrouver? Aurais-je dû décliner chaque fois que tu m'appelais, le cœur léger et la tête ailleurs, sous prétexte que je paraphais ainsi un contrat tacite et creusais le sillon d'un jeu aux règles faussées d'avance, pour me donner l'illusion du pouvoir? Marquer mon désaccord, parce que nous ne rencontrions pas assez d'obstacles naturels, j'aurais dû nous savonner la planche davantage. Je n'aurais pu trouver meilleur moyen de te faire fuir. Une opposition de principe, une posture dissidente. T'aimer, c'était accepter une situation dont je savais tout, ta femme, ta fille et toi. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Of anxiety.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Marie, tu es sûre que tu ne veux pas faire un détour par la maison ? On peut s'autoriser un quart d'heure de politesse. Cela te permettrait d'enfiler quelque chose d'un peu moins formel, non ? Non, je t'assure, ça va. À moins que tu ne m'assumes pas comme ça. Tu as honte de moi ? Mais non, voyons. C'est pour que tu sois plus à ton aise. Je sais que tu n'es pas très friand de ce genre de mondanité. Je me disais que tu avais peut-être envie de te rafraîchir et de mettre quelque chose de plus décontracté. Nous sommes presque arrivés. C'est trop tard, Marie. Je n'ai vraiment pas le courage. Pourquoi en suis-je encore à m'agacer de la couleur de son costume, à guetter la tache sur sa cravate, le faux pli sur son pantalon ? D'où me vient ce besoin de le régenter ? En a-t-il toujours été ainsi ? Ai-je toujours été cette femme qui ne sait que prescrire ou proscrire ? Quand Mathieu a-t-il cessé de m'émouvoir avec son pantalon en accordéon, son beau corps maladroit et son air de n'avoir jamais rien choisi vraiment? Je ne me souviens plus d'à quel moment nous sommes devenus cette chose bougonne, monotone et grise, et rafraîchissoir à désir. N'avons-nous donc jamais tenté d'être autre chose? Et pourquoi? Quand avons-nous commencé à nous scruter comme deux espèces prédatrices l'une de l'autre? Quand le plus insignifiant sujet est-il devenu matière à nous affronter poliment, masquant si mal notre agacement que la moindre étincelle pourrait déclencher un torrent de reproches que nous serions l'un et l'autre incapables d'entendre tant ils sont constitués en strates denses, l'un enterrant l'autre un peu plus profondément sans parvenir à l'étouffer? Notre couple est devenu ce tiroir à archives dont l'un ou l'autre peut, sans s'encombrer de contexte ou de chronologie, extraire un reproche ou un malentendu vieux de 10 ans et le constituer en pièce à conviction, faute ou manquement. Notre famille entière est devenue cette salle d'audience où chacun est juge et parti, témoin et coupable désigné. Voilà pourquoi Jeanne s'est enfuie. Voilà pourquoi nous nous sommes résignés et réfugiés dans nos carrières, dans d'autres vies peut-être. Ai-je si bien su composer mon personnage que même mon mari ne cherche plus à reconnaître celle que je suis derrière le masque grimaçant de Marie S. Il est certes parfaitement rodé, à tel point que ce n'est plus vraiment un personnage, plutôt une seconde peau que je vais et dévais à loisir. J'ai appris à sourire par convenance, à nourrir la plus insipide des conversations. Je peux même rire sur commande avec un naturel déconcertant. Il arrive un moment où dans une carrière, on n'est plus jugé sur la manière dont on s'acquitte de ses fonctions, mais sur celle dont on les habite. Cette règle d'airain, je l'ai faite mienne depuis longtemps. Il m'arrive de ne plus savoir quand je cesse d'être moi-même. Faire entrer Mathieu dans mon arène n'a rien d'anodin. Sa présence m'expose. J'ai beau avoir pris l'habitude de jouer avec le feu, je sais que je prends un risque en arrivant à son bras ce soir. Mais je n'ai pas trouvé de meilleur moyen de refroidir les ardeurs de Thierry C. J'ai eu la faiblesse, la bêtise, de coucher 2 ou 3 fois avec Thierry. Sans doute un peu plus en vérité. Cela fait des années que l'on se croise, mais je ne l'avais jamais vraiment regardé, ou je me l'étais interdit. C'est un bel homme. Un peu trop, peut-être. Ça lui donne une assurance qui confine à la démonstration de force. Je n'ai jamais été à l'aise avec ce genre de type. Je ne sais pas comment me soustraire à leur regard. Je retiens mes sourires et me dérobe à moi-même, espérant les calmer. Je ne me complais pas dans le rôle de la proie, j'enfuis le présage. J'avais donc toujours trouvé préférable de décliner les invitations à déjeuner ou à dîner de ce belâtre notoire, même si elles avaient un alibi professionnel. Et puis il s'en est présenté une que je n'ai pas pu refuser. Nous devions passer en revue le planning publicitaire de l'année. L'avenir du magazine en dépendait et Mathieu était en déplacement. Il m'arrive d'avoir besoin de me sentir regardée, désirée peut-être. Je ne pouvais pas mieux tomber. Le hasard ne place pas un Thierry C sur votre chemin pour d'autres raisons. Je mentirais si je disais que la première fois m'a déplu. Thierry est un bon amant, même si sa bestialité maîtrisée et ses paroles convenues ne sont pas de nature à déstabiliser une femme comme moi, une stagiaire à la rigueur. Cette maîtrise académique m'a fait l'effet d'une conversation que l'on peut quitter à tout moment et y revenir avec l'assurance que l'on pourra toujours l'enrichir d'un bon mot, sans craindre d'être hors sujet. Elle m'a aussi donné le sentiment que mon corps était parfaitement interchangeable, mais ce n'était pas pour me déplaire non plus. Les fois suivantes, j'ai compris qu'il faisait partie de ces types qui font avant tout l'amour avec eux-mêmes. Pour peu qu'il y eût un miroir dans la chambre, c'était l'apothéose. interchangeable et dispensable. Autant faire du cardio à ce compte-là. Bref, ça a assez duré. Il est temps qu'il cesse d'inonder ma messagerie de ces tombereaux de déclarations crypto-érotiques. C'est passé, c'est comme ça. Traîner mon mari à une soirée organisée par ce qu'il est convenu d'appeler mon amant ressemble à un suicide social. Mais je sais que Thierry est beaucoup plus vulnérable dans son costume cintré contre mes cuisses. Et la soirée a lieu dans les salons de la société dont il dirige le pôle communication. Il ne tentera rien. Un regard un peu appuyé tout au plus. La présence de Mathieu dégommera le don Juan, genou à terre, regard de braise éteint, incendie circonscrit. Des Thierrissés, il y en a eu d'autres. Quelques-uns. Ils ont tous eu le bon goût de revenir à un moment ou à un autre à l'ordinaire de leur vie maritale, dont je préfère tout ignorer. Je ne me juge en aucun point supérieur à ces hommes auxquels je m'abandonne. Leurs étreintes ne sont pas plus mesquines que les artifices que je mets en branle pour me défaire de la piètre image que j'ai de moi-même. Je maintiens l'illusion, et c'est à peu près tout ce qui m'importe. J'ai dû beaucoup tanner ma peau pour rendre crédible cette posture distante et blasée, gommer les aspérités, lisser la carapace jusqu'à lui donner cette consistance opaque et froide. J'aime en jouer. Surjouer Marie-S jusqu'à chasser tout ce qui pourrait m'exposer d'une quelconque manière. Que l'on me réduise à quelques éléments de langage, une silhouette monolithique, une autorité léonine, je n'y vois que des avantages. Pourquoi me fourvoyer de la sorte ? Pourquoi abandonner mon corps aux mains d'un obscur directeur de la communication ? L'ennui, le défi, le manque, peut-être un peu tout cela à la fois. Mais si je laisse Thierry C me regarder, c'est d'abord parce que Mathieu, lui, ne me voit plus, ou ne m'a peut-être jamais regardé. Me sentir délaissée dans mon propre royaume, ce n'est pas l'idée que je me faisais de notre couple. Et briller en sa périphérie ne me suffit pas toujours. Je voudrais l'éblouir, mais ne parviens qu'à lui en imposer, le contraindre là où il faudrait l'écouter, le surprendre, le séduire peut-être aussi. Et voilà qu'il a déjà disparu. Où sont-ils, lui et son costume froissé ? Je n'ai tout de même pas forcé la main de cette bécasse d'attaché de presse pour qu'il disparaisse aussi sec. Quelqu'un a-t-il vu mon mari ? Oui, on l'a aperçu dans le petit salon. Il discutait avec le journaliste Xavier N. Fort bien, s'il passe un agréable moment, c'est parfait. Il ne viendra pas me reprocher de lui avoir imposé cette soirée interminable. Je vais, moi aussi, essayer de me détendre. Il n'y a pas de raison, après tout. Il ne reste qu'à trouver quelques complices. Je ne suis pas dupe. La moitié de la profession me regarde comme une espèce en voie d'extinction. Dans 10 ans, tout au plus, les magazines comme le mien n'existeront plus, ou se seront débarrassés des plus gros salaires dont je suis. La pagination chute à chaque numéro. Les annonceurs ont trouvé d'autres terrains de jeu que notre papier, de moins en moins glacé. Ce poster arraché au prix de piges indigentes ne me vaudra pas de médaille. Une jolie voix de garage, et encore. Bientôt l'éditeur nous lâchera, fera entrer un nouvel actionnaire qui s'empressera de transformer ce qu'il reste du magazine en une marque qu'il vendra au plus offrant sous forme de séminaires d'entreprise, de cellules de conseil à destination de services marketing en berne, de salons plus ou moins professionnels. Il restera un vague support numérique chapeauté par un trentenaire issu de Subdeco, obsédé par le référencement, la récurrence des mots-clés et le recrutement de nouveaux annonceurs. Alors oui, je profite de ce qui ressemble de plus en plus à une trêve, un répit. J'impose le sujet de conversation, j'en fixe le tempo, je m'agace, je crie au génie ou à l'imposture, et je clôt le débat en tournant les talons vers un interlocuteur que je juge plus important, ou juste pour aller réclamer un verre d'eau gazeuse au maître d'hôtel, au serveur ou à l'attaché de presse elle-même, si le hasard l'a placé dans mon champ de vision. Alors peut-être serait-il plus honnête de parler de victime plutôt que de complice. Mais je suis loin d'être le seul bourreau à porter la robe fourreau. Nul n'est censé ignorer qu'il est ici soit un prédateur, soit une proie. Appartenir à la seconde catégorie suppose de savoir se soumettre docilement à la première, être une oreille, consentante ou non, réquisitionnée pour endurer rumeurs en tout genre, composer à la hâte un généreux réceptacle à état d'âme dans lequel on crachera tout ce que l'on a sur le cœur. La presse ne va pas bien du tout, t'as vu les chiffres ? Pinterest nous a fait du mal, mais Instagram est en train de nous achever, on va droit dans le mur. La bouffe est immonde, j'ai trop chaud. Le champagne est tiède, la collection est affreuse, c'est vraiment bleu cette couleur. Vivement qu'on se couche. C'était Un empêchement de Jérôme Aumont. Lors de la pause musicale, nous avons écouté Arcade Fire, Age of Anxiety. Cette émission a été produite par Frédéric Guillon. Vous pourrez écouter la suite dimanche prochain à 18h dans Voix au chapitre. Je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.